Comme le président Trump a décidé de reprendre ses points de presse quotidiens à 17h pour parler de COVID, de la COVID aux États-Unis, où on compte plus de 60 000 cas pour une 7e journée consécutive, on dit que la pandémie a fait plus de 140 000 morts jusqu'à maintenant aux États-Unis. Raphaël Jacob, chroniqueur et spécialiste de la politique américaine à qui on parle tous les jours vers 5h-10, est avec nous pour une bonne entrevue. On va faire le tour de plusieurs points sur la politique américaine actuelle, sur ce qui se passe à la Maison-Blanche, en commençant, bon, évidemment, par ce point de presse où on dirait, Raphaël, que le président a viré son capot de bord complètement, là.
À la fois au niveau du fond et au niveau de la forme, Claude, c'est ça qui est intéressant. Premièrement, c'est presque spectaculaire qu'il soit quoi, même pas 18h05, puis que je sois capable de te faire un compte-rendu complet du point de presse parce que c'est déjà terminé.
Ça a été en retard en plus. Moi, je guettais ça à partir de 17h parce qu'il avait été 17h.
T'as raison, et ça a commencé en retard. Je mentionne ça parce que lorsqu'on avait les points de presse quotidiens de la Maison-Blanche sur le coronavirus en mars puis en avril, tu le sais comme moi, là, il y a des soirs que ça prenait 2 heures. 3 heures. Et là, je parle pas 2 heures, 3 heures d'attente. Je veux dire, le point de presse durait 2 à 3 heures.
Oui.
C'était interminable. Donald Trump tirait dans toutes les directions. Là, c'était, écoute, un changement à 180 degrés. Je doute que ça ait duré une demi-heure. Et au niveau, écoute, du ton que le président a employé, très posé, très bref, et pas parti sur 1 million de tangentes, et même sur certains des propos, écoute, il a complètement changé son fusil d'épaule, notamment sur la fameuse question du masque, est-ce qu'on devrait le porter ou non? Écoute, c'était depuis des mois rendu carrément un symbole politique, le masque. Un petit peu comme le parallèle que j'ai souvent fait à l'émission, c'est avec l'hydroxychloroquine. Soit t'étais pour ou contre, puis que si t'étais pour, ça disait que t'étais d'une couleur politique, si t'étais contre, ça voulait dire que t'étais de l'autre côté. Mm-hmm. Le masque s'était rendu la même chose. Et là, pourtant, Donald Trump, qui est un petit peu l'espèce de champion d'un point de vue symbolique des anti-masques, si on veut,
Il l'a mis une fois.
Et là, aujourd'hui, c'est à nouveau porté à la défense du fait de porter le masque. Dit que, selon lui, oui, ça peut aider. Si on est proche de quelqu'un d'autre, on devrait le porter. Écoute, c'est un changement de cap assez spectaculaire.
Radical. Puis il a admis, mais là, je pense que c'est parce qu'il est conseiller, là, puis on lui dit embarque là-dedans, sans ça, tu perds tes élections. Il a dit, ça va aller plus mal, ça va être pire avant d'aller mieux.
Oui, et en fait, tu me demandes un peu, Marc-Claude, parce que je l'ai dit moi-même, clairement, lorsque tu voyais le président et lorsque tu entendais le président ce soir, tu avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui avait été très lourdement coaché. Autrement dit, fais ça, dis ça, maintiens-toi à ça, that's it, that's all. La question, c'est de savoir à quel point ça peut durer dans le temps, ça. Parce que là,
c'est comme un enfant turbulent un peu, là, qu'on aurait calmé, là, pour une journée, on dirait, tu sais.
Tu dis turbulent, je dirais téflon.
Tu sais, un enfant téflon. Non, mais les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire, il est très turbulent dans le sens, comme tu parles des points de presse qui duraient, de façon, tu sais, c'était interminable. Ouais. Je me souviens, j'oublierai jamais le fameux, le visage de celle qui représente la santé publique, là, avec
la Dr. Birx.
Oui, c'est ça. Écoute, ça valait 1 000 $, cette affaire-là. Oui. Juste voir
à plusieurs reprises.
Ben oui, quand il annonçait qu'on pouvait avoir du désinfectant, injectable. Bon. Mais effectivement, c'est un enfant turbulent, on peut dire. Et là, c'était pas l'image qu'il voulait donner aujourd'hui. C'est très particulier.
Non. Non, c'est vrai. En même temps, écoute, on en a tellement des précédents comme ça, notamment dans ces campagnes, celle de 2016, celle de 2020, des brefs interludes où il est discipliné, où il est posé, où il est, disons-le, présidentiel. Le petit hic, c'est que ça dure jamais vraiment longtemps. Et là, la question, c'est de savoir s'il recommence justement cette pratique-là, des points de presse quotidiens sur le coronavirus, à tous les jours. À quel point est-ce que ça peut durer comme ça, surtout quand, tôt ou tard, Marc-Claude, il va y avoir une journaliste qui va lui poser une question qui va vraiment, vraiment lui déplaire. Est-ce qu'il va résister ou est-ce qu'il va redevenir la personne que foncièrement il est? Tu sais, je sais pas. Ce qui est clair pour moi, c'est que avoir ce ton-là, avoir ce genre d'approche-là, si ça avait été comme ça depuis le début, je doute très fortement qu'il serait dans le pétrin politique, dans le pétrin électoral dans lequel il se trouve présentement. Parce que écoute, la gestion de cette crise-là, c'est pas juste une question de politique publique. D'un point de vue politique, là, c'est aussi une question de communication, de ce que tu projettes. Et d'avoir un président qui a été aussi indiscipliné, qui a été vu comme étant carrément à côté de la traque, souvent en train de se chicaner avec les journalistes, avec les autres élus, avec des membres de sa propre équipe. Au niveau de l'image que ça projetait, quand tu avais besoin d'une figure, je ne dirais pas paternelle, mais certainement au moins d'une figure
rassurante.
Rassurante, c'est bien dit, c'est mieux dit. C'est pas tout à fait ça, je te dirais, que la majorité des Américains a vu. Là, c'est peut-être davantage ça qu'on a vu ce soir. Est-ce que ça va durer?
C'est ça. Grande question. Et surtout que si on regarde les faits, il y a à peine 48 heures, il criait encore là, dans son entrevue avec Chris Wallace que s'il y avait plus de cas aux États-Unis, c'était juste parce qu'il y avait plus de tests, puis qu'en Europe, il n'y avait même pas de tests, puis qu'eux autres étaient les plus grands testeurs au monde. En tout cas, il y a eu beaucoup de superlatifs sur lui et sur les États-Unis pendant cette entrevue-là. Jamais dans les dernières semaines ou les derniers mois, il y a eu de mots pour les gens qui ont perdu un être cher dans des circonstances pénibles, là, où tu ne peux même pas aller à l'hôpital.
Là-dessus aussi, Marie-Claude, tu me devances, parce que s'il y avait une chose, c'est rendu pratique courante, mais c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Je préfère que tu fasses ça que ce que tu as fait avant la pause, c'est-à-dire mélanger mon nom pour celui de Donald Trump. Je préférais, en fait, quand tu m'appelais Jérémy. Ça, je trouvais ça moins pire.
Mais hey, je te dis que ma cote baisse, là, cette
fille. Non, au contraire. Mais très sérieusement, ce qu'il n'a pas fait, une chose qui manquait, puis sincèrement, tu sais, je vais pas jouer au psychologue ou au psychiatre, je sais pas s'il en est capable, ok? Je sais pas si c'est en lui, mais essayez au moins de projeter de l'empathie. Tu sais, ne serait-ce qu'au moins en lisant, ne serait-ce qu'au début, en lisant des remarques qui auraient déjà été préparées pour lui, comme quoi il est dans son cœur, dans son esprit, avec les proches de victimes. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça,
oui, parce que c'était pas là. Oui, parce que même parmi ses fans, ceux qui croient en lui dur comme fer, il y en a des cas de COVID. C'est impossible que la COVID épargne les républicains pro-Trump. C'est impossible.
Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui, aujourd'hui, sont en train un petit peu de spéculer sur le fait que la question du masque, c'était vraiment en train de déranger des gens au sein de l'électorat républicain, que ce n'était plus rendu à ce stade-ci strictement une question partisane. Oui, à la base, pendant des mois, c'était ça. Mais là, c'était en train de gruger des gens dans son propre électorat. Donc, il y a ça. Autre question, je pense que je dois aborder d'emblée, parce qu'il y en a probablement qui se la posent depuis tantôt. Où était le Dr Fauci? Où était la Dr Birx? La réponse très simple, Marc-Claude, c'est qu'il n'était pas là. Et le président s'est fait poser la question à ce sujet-là. La réponse était très simple. C'était de dire « Il m'attend à l'extérieur de la pièce. » Donc... Non, mais j'ai eu un peu la même réaction de toi quand Donald Trump a répondu ça. Mais sais-tu quoi?
Est-ce qu'il a rajouté qu'il les aimait beaucoup?
Non, on parlait de manque d'empathie.
C'est parce qu'il dit ça beaucoup. Hein? Quand on lui reproche de ne pas être gentil ou correct avec quelqu'un, il va dire non, mais je l'aime beaucoup.
Mais je te dirais que d'un point de vue stratégique, il y avait probablement quelque chose qui était bien joué là-dedans. Parce que, écoute, imagine une seconde là, si Anthony Fauci avait été aux côtés de Donald Trump ce soir. De quoi est-ce que tu penses qu'on aurait parlé? De quoi est-ce que tu penses que les journalistes auraient voulu parler? Évidemment, de ce que le docteur Fauci pensait, des désaccords entre les deux hommes, de la relation professionnelle entre les deux hommes, est-ce qu'elle allait le congédier, etc., etc., etc. Donc, d'un point de vue de communication stratégique, c'était probablement bien avisé, en fait, de les tenir à l'écart pour aujourd'hui. Et soit dit en passant, c'est pas seulement eux, c'est pas seulement les docteurs Fauci et Birx qui n'étaient pas là. Il n'y avait personne d'autre. Quand la Maison-Blanche faisait ses points de presse quotidiens au début de la crise, on avait, écoute, un éventail de personnes. Là. Il y avait Mike Pence, le vice-président, souvent qui était là, des fois d'autres membres du cabinet, les médecins, etc. Là, c'était seulement Donald Trump ce soir. Est-ce que ça va être la pratique qui va être là quotidiennement? Je ne sais pas, mais ce soir, dans le contexte, pour essayer de peut-être rétablir un petit peu les choses, c'était, somme toute, assez bien joué.
Oui,
même si au final, écoute, ça aussi c'est une question ouverte. Est-ce que l'opinion publique est rendue trop cristallisée contre Donald Trump et surtout contre sa gestion de cette crise-là après 4 mois pour vraiment pouvoir changer parce que Donald Trump change son fusil d'épaule ou change sa façon d'aborder ça? Sincèrement, je l'ignore. Les prochaines semaines vont peut-être nous éclairer.
Oui, puis tu as vu dans le New York Times ce matin, quand ils disent que les sondages d'été peuvent dégringoler à l'automne, que ce ne serait pas la première fois. Que, tu sais, genre qu'en ce moment, pour Biden, c'est plus haut, mais que ça pourrait baisser. Tout est encore possible. Mais c'est vrai que tu nous as expliqué récemment que le contexte était très différent cette fois-ci.
Le contexte est différent. Donc, le contexte est différent. En même temps, une chose que je dirais là-dessus, et là-dessus non plus, on n'a pas de réponse définitive. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'à partir du moment où on va voir les conventions, OK, des deux parties. C'est prévu pour la mi-août. Convention démocrate qui commencerait le 17 août, la convention républicaine une semaine plus tard, le 24. Normalement, là, écoute, on va avoir une semaine où ça va être essentiellement le programme et les politiciens du Parti démocrate qui vont être mis de l'avant. Dans les heures de grande écoute, on va parler pratiquement que de ça. Normalement. Après ça, la semaine suivante, même chose du côté républicain. Ça, ce que ça a tendance à faire, ou normalement, ce que ça devrait avoir tendance à faire, c'est faire ressortir le côté partisan des gens. Donc, autrement dit, si Donald Trump a perdu des appuis, entre autres, parce qu'il y a des électeurs républicains, ou il y a des électeurs qui ne sont pas nécessairement officiellement des républicains, mais souvent votent républicains, et qui, là, lui tourne le dos, ben, le fait de voir, par exemple, le programme démocrate avec lequel ils ne se reconnaissent pas vraiment, ou de voir, au contraire, le programme républicain avec lequel ils se reconnaissent davantage, ça pourrait raviver en eux une espèce de flamme partisane. Ça, c'est ce que la théorie te dirait. Et ça pourrait effectivement te laisser supposer que, ben là, l'écart qui est à 8, 9, 10, 11 points en faveur de M. Biden, ça pourrait se rétrécir parce que, naturellement, dans un environnement politique normal, c'est plus serré que ça entre les deux partis politiques majeurs d'habitude aux États-Unis.
Bon.
Ça, c'est une belle réponse théorique, mais on n'est pas dans ce contexte normal. Puis je sais pas, avec les crises qu'on vit présentement, ouais, à quel point ça va vraiment changer.
En effet. Est-ce que par hasard, tu as écouté l'entrevue qu'on a faite tout à l'heure avec Henri Arnault?
Malheureusement, non. J'ai entendu d'autres entrevues, pas celle-là, par
OK. Ben non, mais je te résume rapidement. C'est parce que c'était quand même un point de vue intéressant. Il parlait de la candidature de Kanye West.
On en a pas assez parlé depuis moi.
Non, mais c'était comme une autre approche qui était que, comme ils ont été très proches des Trump, lui, ouais, et sa femme, Kardashian, ben peut-être ce serait juste pour aider Trump à gagner cette candidature. Tu comprends? S'il attire le vote noir, comme en Caroline du Sud.
Oui. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et écoute, ça c'est drôle parce que toi et moi on s'en parlait il y a peut-être quoi, deux semaines, savoir si Kanye West, excuse-moi, à chaque fois que je dis son nom, je suis de la misère à parler, c'est comme un réflexe spontané.
Oui, c'est parce que ça fait pas très présidentiel.
Non, non, en effet, ça aussi c'est un euphémisme. Mais,
surtout après dimanche.
Oui, en effet, surtout après son rallye, entre guillemets, son rallye électoral, c'était assez spécial. Donc, en même temps, ce que je te disais, c'est encore ce que je pense, c'est-à-dire, si jamais il mène une campagne moindrement sérieuse, assez sérieuse pour aller chercher là, plus que 2 ou 3 votes, là, qui a des milliers, ou même peut-être côté des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui votent pour lui, à qui est-ce que ça fait le plus mal entre Biden et Trump?
À Biden.
Ben, tu sais, ça, c'est une façon de le voir. Je pense que c'est une façon qui se défend, évidemment, parce que, comme tu le disais tantôt, comme de ce que tu dis, Henri Arnault aussi disait ça, historiquement, je veux dire, dans les 4 dernières années, on dirait que ça fait 40 siècles, mais depuis 4 ans, on le sait, ils sont très proches, ils sont amis-amis. Mais ce qui est également vrai, Marc-Claude, c'est que il y a des choses dans, justement, ce passé-là de Kanye West qui risquent de, je te dirais, pas nécessairement séduire tout le monde là, au sein de l'électorat démocrate. Donc, si t'es un électeur qui aurait voté pour Donald Trump ou pour Joe Biden, dans les deux cas, il peut y avoir des affaires dans la personnalité puis dans le passé de Kanye West qui vont pas nécessairement te plaire. Fait que, écoute, pour moi, ce n'est pas garanti qu'il ferait plus mal à Biden qu'à Trump.
OK, ben ça fait du bien d'entendre ça. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur ce point dont on a parlé plus tôt dans l'émission sur est-ce qu'il va accepter la défaite s'il est défait? C'est un sujet, moi, qui me tracasse beaucoup.
Ben écoute, c'est tellement gros, c'est tellement sérieux que je pense qu'on va s'en reparler veut pas au courant des prochaines semaines, Marc-Claude. Je garderai ça pour un autre jour. Ce dont je voudrais te parler, par exemple, parce que c'est lié directement avec la situation de la COVID-19, puis là, on s'en parle là, de façon plus exhaustive, disons, ce soir ensemble, là, c'est la question des écoles aux États-Unis. Parce que là, avec la recrudescence de la pandémie dans certaines régions, la montée, en fait, en flèche dans certaines régions, avec aussi la sortie hyper agressive de Donald Trump au courant des dernières semaines, qui a braqué tous ses adversaires politiques, quand sur Twitter, notamment, en lettres majuscules, il est allé écrire, pratiquement comme c'était un ordre national, ouvrez les écoles. Là, ce qu'on a, c'est en fait exactement le mouvement inverse, le mouvement contraire. C'est que là, on a une juridiction après l'autre, presque toujours en fait dans des régions qui sont beaucoup plus démocrates, qui annoncent que les écoles publiques, incluant les écoles primaires, vont rester fermées. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est au niveau des implications sociales à plus long terme. Laissons la question de la pandémie, pas, pas que c'est pas légitime, pas que c'est pas important, là. Mais si on évacue, ou du moins tout au moins, là, on met de côté la question sanitaire, la question de la COVID-19 de côté un instant. Ce que ça risque de faire, si on a des fermetures à moindrement long terme, là, puis garde en tête que les écoles aux États-Unis ont fermé en même temps qu'ici, là, mm-hmm. C'était depuis la mi-mars que c'est fermé.
Il reste 30 secondes, Raphaël.
30 secondes?
Oui.
Écoute, la seule chose que je veux dire, c'est ceci. On peut se retrouver dans une situation où tu vas avoir des enfants provenant de milieux plus pauvres qui vont à l'école publique, qui n'ont pas droit à une réelle éducation, et en même temps, des enfants qui viennent de milieux mieux nantis, qui vont à l'école privée, qui, elles, rouvrent ou restent ouvertes, ou qui ont accès à des tuteurs privés.
Oui.
Au niveau des inégalités sociales, qui sont déjà criantes aux États-Unis, ça, c'est une méchante crise potentielle en devenir.
Oui.
La COVID-19, c'est ça aussi.
Et dimanche, Trump, dans une entrevue, donc, disait qu'il allait couper les subventions
aux États-Unis
qui n'ouvraient pas. Alors, donc, non, écoute, effectivement, sur les inégalités sociales, c'est très inquiétant. Raphaël, ça a été un plaisir de pouvoir se parler plus longuement que d'habitude. Alors, on remet ça peut-être plus tard dans l'été, mais sinon, on se retrouve demain à 16h50.
À demain.
Merci, à demain.